Ce qui suit est une production de WebWest Balado. On s'entend là-dessus.
WebWest présente
La question en question
avec Yann Dallaire
et Jean Fontaine.
Qui? Comment? Où? Combien? Yann Dallaire, bonjour.
Bonjour Jean Fontaine.
Bienvenue à La question en question.
Toi-même.
Oui. Merci. Celui qui le dit, celui qui l'est.
Ouais.
On a tous dans nos vies, mon cher Yann, des habitudes. En fait, même selon l'Université Duke,
oui.
40% de ce qu'on fait dans une journée consiste en des habitudes.
D'accord.
OK. Et on a tous donc des habitudes qu'on aimerait changer des fois pour améliorer notre style de vie, mais c'est souvent difficile d'y parvenir. Ça peut être des choses qu'on veut arrêter de faire, comme mm-hmm. arrêter de fumer, mm-hmm. perdre du poids, par exemple, ou des choses qu'on veut ajouter, comme faire plus d'exercices, même apprendre à jouer la guitare.
Oui.
Alors voilà. Alors notre question cette semaine, c'est avez-vous déjà réussi à changer une mauvaise habitude, puis on aurait pu ajouter, ou encore en ajouter une bonne.
Oui, d'accord.
Si oui, laquelle et comment? Alors d'abord, mon cher Yann, je te pose la question. Est-ce que tu as déjà réussi à changer une mauvaise habitude?
Oui, mais c'est très difficile. Puis en général, je me suis posé la question cette semaine parce que ça nous invite à réfléchir, ces questions-là.
Ouais.
Puis je me suis dit, OK, qu'est-ce que... la remise en forme, c'est toujours en haut sur ma liste. Puis ça, c'est vraiment une question de, comme tu le disais, acquérir une bonne habitude.
Oui, c'est ça, exactement.
Je pense que ça passerait probablement par plus d'exercice, etc.
Uh-huh.
Mais c'est aussi peut-être changer une mauvaise habitude qui est de manger le soir quand t'as pas besoin, tu sais, un petit sac de chips mm-hmm. en regardant TV, etc. Ça, c'est, tu sais, fait que c'est un mélange, ça serait un mélange de tout ça pour moi.
Mais es-tu en train de dire que parfois tu y arrives, mais que ça reste pas permanent?
Je suis en train de dire que plus je vieillis, plus ces habitudes-là semblent ancrées, puis plus j'ai l'impression que mon, je vais appeler le willpower, l'espèce de pouvoir de la volonté, puis la motivation est de moins en moins là, puis c'est de plus en plus dur. Parce que je me souviens de certaines époques où je m'étais dit, OK, là, je me remets en forme. Puis ça avait fonctionné 100%. Là. J'avais justement changé mes habitudes, puis j'avais inclus le gym dans mes habitudes, puis ça avait duré un an plus. Là,
oui.
Où est-ce que, puis j'avais perdu du poids, j'étais en forme, meilleure forme de ma vie.
Oui.
Puis ça avait fonctionné.
C'est drôle parce qu'on dit, je sais pas si c'est vrai, mais on dit que quand tu essaies de créer une nouvelle habitude, il faut que tu le fasses pendant un certain nombre de jours, ou un certain laps de temps. On parle souvent, j'ai vu ça, puis peut-être que notre invité tantôt pourra nous le dire, mais j'ai vu 66 jours.
Ah, bien, ça me surprend
pas. Si tu fais quelque chose pendant 66 jours, tu n'auras plus besoin d'y penser.
Oui.
Mais moi, c'est arrivé, ça, dans ma vie, ce genre de choses-là, mais la mauvaise habitude... parfois revient.
C'est ça.
Tu comprends?
Mais moi, ma mise en forme, je vais te donner un objectif. C'est ça le problème. Parce que quand l'objectif avait été atteint, je me suis dit, ben là, je suis correct.
Moi, une mauvaise habitude que j'ai changée, c'est exactement celle-là, c'est de bouger. Et puis, moi, c'était relié à une dépression que j'ai faite, assez sévère, où j'étais traité par médicaments. Puis, à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que je bouge. Puis j'étais en surpoids. J'ai toujours été un peu en surpoids, mais là, c'était à mon maximum. Et j'ai commencé avec 5 minutes de marche par jour. Ça, c'est te dire à quel point je ne faisais rien.
Oui.
Et graduellement, j'ai augmenté ça. Et aujourd'hui, c'est il y a 15 ans peut-être, aujourd'hui, je ne peux pas me passer au moins de marcher 35 à 40 minutes dans une journée.
Tu te sens pas bien?
Exactement. Je me sens qu'il me manque quelque chose. J'imagine que c'est la dopamine que ça libère. Ça fait en sorte que ça me fait du bien. Mmh. Et je ne suis plus médicamenté depuis 15 ans, je peux te le dire aussi.
Ouais. Mais rentrons peut-être les aspects plus positifs. T'sais, moi, j'ai appris la guitare. Je suis en train, 47 ans là, bientôt. Je suis en train d'essayer de me motiver à jouer de plus en plus de piano. Puis je me souviens que c'était une résolution que j'avais prise il y a peut-être un an et demi. Et j'y arrive quand même à jouer de plus en plus de piano et à être de meilleur en meilleur jusqu'à ce que je fasse... je joue beaucoup mieux que je jouais il y a un an et demi.
Et est-ce que tu te donnes un certain temps à chaque jour pour en jouer un peu?
Ben, j'essaie de me dire... bonne question. Non, je rentre pas ça dans un calendrier nécessairement, mais je me dis que c'est important que j'en joue souvent. Puis quand j'en joue pas pendant une journée ou deux... J'ai envie d'aller m'installer au piano, juste pour faire, tu sais, comme deux, trois...
Il y a plusieurs gens qui sont des spécialistes des habitudes qui disent il faut faire ça graduellement.
Oui.
Alors, tu sais, et James Clear, qui a écrit un livre qui s'appelle Atomic Habits, lui, il dit « Améliorez ce que vous voulez améliorer de 1 % par jour. » Puis à un moment donné, là, la courbe, elle va devenir... beaucoup plus, elle va, comment dire, elle va s'accentuer rapidement. Le 1 % va devenir 100 % si tu veux. Ou... Tu sais, c'est comme apprendre la guitare, par exemple. Tu sais à quel point moi, j'aimerais ça, jouer de la guitare.
Ouais.
J'en joue très peu. Et je me dis toujours, pourquoi tu ne fais pas 5 minutes par jour?
Exactement.
Et je l'ai fait pendant tout le mois de janvier, puis depuis février, je n'ai pas retouché.
Ah, c'est ça,
oui. C'est ça, l'affaire.
Ben, ma marche au travail, ma fameuse marche au travail dont je vous en avais parlé.
Oui.
J'ai fait tout janvier, je voulais faire tout janvier. Alors, je me suis dit, hey, je vais faire janvier.
J'avais un objectif.
J'avais un objectif. Puis là, j'ai réussi à faire tout janvier. C'est tout.
Oui, mais
le février est arrivé.
C'est ça, puis les excuses aussi.
Mais c'est
là,
ça.
Ton excuse, là, les trottoirs sont glissants.
Les trottoirs étaient glissants, j'ai tombé deux fois, j'ai arrêté. Puis là, on est en mars, puis il fait beau, puis les trottoirs sont plus, puis là, je marche pas.
Ouais.
J'ai pas fait mon 66 jours, tu sais.
OK, on a quelques commentaires à partager avant de vous présenter notre invité. Wissam nous dit « J'ai fumé pendant 20 ans et à la naissance de mon fils aîné, c'était un déclic. Il y a maintenant 13 ans et demi depuis et je n'ai plus jamais remis une cigarette dans ma bouche. » Alors ça, c'est quand même... Et c'est drôle parce que les trois exemples qu'on a, ce sont des gens qui ont arrêté de fumer « cold turkey », comme on dit, du jour au lendemain. Fabien dit « J'ai été un fumeur de tabac et du jour au lendemain, comme ça, sans raison, ça c'est intéressant aussi, j'ai décidé d'arrêter. Je ne fumais pas beaucoup, 5 cigarettes par jour environ, et puis avec l'aide des patchs, j'avais décroché au bout de 2 semaines. » Et puis Pascal nous dit un peu la même chose. Elle dit « J'ai arrêté de fumer en 2005. J'ai fait le Dry February. » Ça, c'est récemment, là, qui vient le février. Donc, elle n'a pas bu en février, c'est ça que ça veut dire. « En plus, j'ai coupé sucreries et chips. Toujours pas recommencé. »
Oh, c'est bien.
« J'ai aussi repris l'entraînement quotidien que j'avais négligé cet automne. » Alors, tu vois, je ne sais pas si ça nous indique c'est quoi les stratégies pour changer une mauvaise habitude, mais ça nous indique que c'est faisable.
Oui, c'est
ça. Ça nous donne de l'espoir. Alors,
exactement.
Notre invitée, c'est Julie Bélanger-Bailey. Elle est présidente de Rebellious Consultations RH et c'est la fondatrice aussi du programme Zen Fit. Julie, bonjour.
Allô.
Julie, c'est quoi Zen Fit pour commencer? Il faut quand même que tu nous précises ça.
Bien, Zen Fit, ça tombe dans les cordes de votre question du jour parce que, ben c'est ça, c'est un programme d'activité physique pour le mental. Donc, moi, ça fait 25 ans que j'enseigne des différents programmes de conditionnement physique en groupe. Donc là, ça ne va pas me rajeunir, mais j'ai commencé avec l'aérobie et le step, tu sais, Jane Fonda, dans la fin des années 90. Ensuite, Zumba et puis tout ça, puis plein de choses. Puis à un moment donné, vers 2016, je trouvais qu'il me manquait le côté mental. J'aimais pas le yoga, mais j'aimais le j'avais découvert la pleine conscience et tout ça. Et surtout, l'objectif principal derrière Zen Fit, c'est le pouvoir du mental. Donc, ça vient bien s'aligner à la question du jour d'aujourd'hui parce que le pouvoir du mental, c'est essentiel.
D'accord. Puis, ben j'ai envie de te demander de façon plus personnelle. Est-ce que toi, tu as déjà réussi à changer soit des mauvaises habitudes ou à en acquérir des nouvelles qui étaient meilleures?
J'ai réussi et j'ai échoué plusieurs fois. je vous écoutais parler, puis c'est super intéressant parce que, ben, tu sais, ça fait un peu penser aux résolutions du jour de l'an. Étant dans le monde du fitness depuis 25 ans, évidemment, je fais beaucoup de développement professionnel puis personnel là-dessus pour me tenir au courant des meilleures pratiques, etc. Puis on dit souvent que, tu parlais, Jean, tantôt, du nombre de jours que ça prend pour garder une bonne résolution, que ça devienne une bonne habitude, que ça devienne un style de vie. Je ne sais pas c'est quoi le chiffre, là, je ne suis pas experte en la matière, mais je sais que la majorité des gens s'inscrivent à un gym au début janvier et le point critique, c'est la troisième semaine en janvier qui arrête. Donc, comme il y a peut-être 90 % des gens qui ne vont pas atteindre leurs objectifs, parce que la pression sociale est juste trop forte, puis ils ont l'impression qu'ils doivent changer leurs vieilles mauvaises habitudes pour des bonnes, puis l'objectif est comme oublié, puis là, après 3 semaines environ, c'est comme, ça fonctionne pas. Puis là, ben, le sentiment devient encore plus décourageant, je suis pas bonne, nanana. Donc, moi, une des bonnes habitudes que j'ai implantées, justement, c'est de, quand j'ai réalisé, ben, j'ai été diagnostiquée avec l'anxiété, le trouble de l'anxiété pendant mon adolescence. Puis, ben, plus tard, j'ai marié un militaire, donc la vie militaire était extrêmement difficile. Puis j'ai eu un paquet de choses qui s'est rajouté dans ma vie, puis ça n'a pas aidé à mon anxiété. J'ai peut-être eu la chance d'avoir déjà eu un style de vie, parce que c'était pas une habitude, c'est un style de vie d'aller m'entraîner puis de prendre soin de ma santé physique. Donc ça, c'était comme, j'en suis reconnaissante, parce que ça faisait déjà partie de mes habitudes. puis ça l'aidait à mon anxiété, à ma santé mentale. Évidemment, tu sais, même si on bouge 5 minutes par jour, ben ça nous fait du bien à cause de la dopamine et tout ça. Mais il me manquait vraiment quelque chose, je sais pas, au niveau pleine conscience et à travers plusieurs thérapies puis de développement personnel pour gérer mon anxiété parce que c'était devenu des troubles de crise de panique et tout ça. J'étais médicamentée, je le suis encore aussi. J'ai essayé d'arrêter, mais bon, en tout cas. Puis pour moi, ce qui a été vraiment l'élément déclencheur positif, c'est la découverte de la pleine conscience. Et donc, c'est de le 1%, là, à tous les jours, 2-3 minutes par jour, j'essayais de pratiquer la pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est juste de vivre le moment présent. Et dans l'anxiété, on est toujours dans le futur, on a notre hamster qui roule. La dépression, on est dans le passé. Puis le moment présent, ben, on l'a tout, tu sais. Puis c'est le plus dur, c'est d'être ici maintenant, puis de revenir à une technique de respiration. Donc, c'est ça, j'ai découvert ça par hasard en 2016. J'ai comme ça mange quoi en hiver, ça, la pleine conscience. Mais à un moment donné, j'ai comme fait des recherches, puis j'ai vu que dans le fond, c'est la présence à soi, c'est le moment présent. Puis là, j'ai tout découvert ce monde-là, puis j'ai dit, wow, puis ça m'a vraiment, vraiment aidé, mon
Et ce qui
anxiété.
est intéressant avec la pleine conscience, mindfulness aussi, qu'on dit en anglais, c'est que tu peux le pratiquer même sans méditer, c'est-à-dire que tu peux marcher, puis au lieu de penser à plein d'affaires, à ta job, à ta blonde, etc., tu peux décider de juste apprécier le moment où tu marches, sentir ton corps qui marche, tes pieds qui sont dans la neige, etc., etc., et regarder autour de toi sans essayer de penser. C'est un peu ça aussi, hein, Julie, on peut le faire de cette façon-là
C'est
aussi.
exactement ça. Puis c'est le plus efficace quand on n'est justement pas sur un tapis en position Bouddha, tu sais, parce que les gens pensent, oh, yoga, spiritualité, pleine conscience. Non, c'est comme quand tu marches 5 minutes dehors, quand tu fais ta vaisselle, quand tu manges, comme d'apporter ton attention dans ce que tu fais ici maintenant, puis d'oublier le reste. C'est tellement puissant, mais c'est tellement difficile. Puis ça, c'est le 1% qu'à un moment donné, tu te dédies 2, 3, 5 minutes par jour. Puis tu visualises que tu es juste ici et tu oublies tout le reste, là. Puis à un moment donné, ça devient, quand que je vis des choses vraiment, de la détresse extrême, pas nécessairement pour moi, mais des situations vraiment chaotiques, puis dans mon travail, j'en ai aussi, bon, ça devient comme une seconde nature. C'est comme dans mon réflexe, je vais aller vraiment, il y a du bruit, mais j'oublie tout, j'entends rien, puis c'est comme, tu sais, comme je suis ici, puis ça paraît pas, là. Mais c'est comme ça que j'ai géré. C'est pas toujours, tu sais, je réussis pas toujours, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, c'est devenu une façon de vivre aussi.
Est-ce que c'est une technique que tu proposerais à n'importe qui? Par exemple, cette idée de 2, 3 minutes de pleine conscience pour acquérir n'importe quelle habitude ou pour se débarrasser même d'une habitude. Par exemple, tiens, prenons le cas de quelqu'un qui fume et qui veut arrêter de fumer. De quelle façon est-ce que toi, tu pourrais l'accompagner?
Ben, 100%, pour répondre à ta question, je pense que le pouvoir du mental est la force la plus puissante. Puis qu'on veuille arrêter de fumer, qu'on veuille changer n'importe quoi, perdre du poids, n'importe quoi qu'on veut changer part de la tête. Tu sais, puis on met beaucoup d'accent sur le physique, on parle beaucoup de ça dans les réseaux sociaux, mais c'est vraiment le pouvoir du mental qui compte le plus. Donc, je dirais que, je l'encourage à tout le monde. T'sais, tu peux être dans ton lit le soir ou le matin ou n'importe quand, puis d'essayer de juste, t'sais, focusser ici, maintenant, puis de revenir à ta respiration. Parce que quand tu le fais, ouais. c'est sûr que tu vas avoir des pensées qui vont venir, puis que c'est plus fort que tout, c'est ça. On l'a tout, ce petit hamster-là, tu sais. Mais à un moment donné, de ne pas juger ça, puis de le laisser passer, puis de dire, tu sais, non, merci, j'ai pas besoin de toi en ce moment. Tu sais, la voix qui vient, là, ça prend de la pratique, puis il n'y a pas de ligne d'arrivée à ça. Tu sais, on n'a pas un objectif final. C'est juste une façon de vivre c'est de la pratique. C'est ça.
Julie, tu disais que l'importance du mental, moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Tu sais, c'est pas nécessairement que c'est marcher qui est difficile. C'est pas marcher une demi-heure par jour qui est difficile. Ouais. C'est de gearer son mental pour ouvrir la porte, s'habiller, sortir, puis aller marcher. Puis il y a quelqu'un qui me disait, si tu veux commencer à faire de l'exercice, tu peux même faire rien qu'un push-up.
Oui.
Tu fais un push-up par jour.
Ouais, ouais.
C'est juste l'idée de faire l'action, de le faire.
Oui.
D'en faire un, tout le monde est capable de faire un push-up.
Et même, tu peux jumeler ça à quelque chose, genre, OK, à chaque fois que, par exemple, je ferme mon ordinateur, ah, il faut que je fasse un push-up.
Ah,
il y a cette façon-là aussi. Je ne sais pas si ça marche.
Oui, oui, oui.
Je t'avoue que je ne l'ai jamais essayé, mais j'ai lu ça en quelque part.
Alors, c'est pas l'idée du dépassement physique et de la remise en forme. C'est l'idée du mental, justement, de gearer ton mental pour être capable de changer ton habitude.
C'est l'objectif à long terme aussi. C'est que quand tu marches, faut pas que tu penses juste à la marche. Faut que tu penses aussi, moi, juste, ça va me donner la santé, ouais. ça va améliorer ma vie, ça va pas...
Puis ce qui va se passer dans le cas du push-up, c'est que tu vas être en train d'être par terre, puis au lieu de te relever, tu vas peut-être en faire un deuxième parce que tu es absolument capable de le
Exactement.
Faire.
Exactement.
Puis peut-être qu'à un moment donné, tu vas en faire 5, 6, 12...
C'est peut-être 12, la théorie du 1%. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas en faire 50, puis ça va être comme... En tout cas, je ne sais pas, parce que je ne me suis jamais rendu à 50 depuis longtemps. Mais je pense qu'un autre problème, Julie, c'est la gratification immédiate. Les humains, on aime ça, le plaisir tout de suite. On veut tout de suite. Fait que quand tu as le choix entre une poutine et une salade, tu sais que c'est la salade que tu devrais prendre. Mais mausus que c'est le fun de manger une poutine. Fait que ça, c'est difficile de se débarrasser de ce plaisir-là, de faire des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes à long terme pour nous.
Ben, je vous écoutais, Yann, ce que tu disais aussi, c'est intéressant. En tout cas, il y a une autre chose, une habitude que j'ai comme intégrée quand j'ai découvert la pleine conscience, puis que ça peut peut-être aider les gens qui nous écoutent, c'est la visualisation, ou les affirmations. Donc, quand je fais mon 2, 3, 5 minutes par jour, je vais visualiser que tout est possible, puis tu sais, peut-être que peut-être que c'est un petit nuage rose, là, puis que mais tout est possible, puis c'est le pouvoir du mental encore, donc je visualise où est-ce que je veux être, puis les plus grands athlètes, là, quand ils se font coacher, là, les Olympiens et tout ça, c'est ça qu'ils utilisent, donc je visualise les résultats positifs, comment je vais me sentir si j'ajoute plus de légumes dans mon assiette ou si je choisis la salade au lieu de la poutine. Mais c'est ça, je vais visualiser, je vais aussi affirmer que je suis capable dans mon 2, 3, 5 minutes de pleine conscience, de pleine présence. Puis je vais m'encadrer aussi de gens qui vont être mon avocat du diable ou qui vont me donner du tough love pour me dire « Hey, comment ça va, ton objectif? Oui. » Puis je leur dis, tu sais, si je suis en train de lâcher ou de me trouver des excuses, ramène-moi. Fait que de s'encadrer, ça nous donne une espèce de... C'est quoi en français, accountability, de
redevabilité, voilà.
Ouais. C'est ça. Je pense que la visualisation chez les athlètes, ça a été prouvé scientifiquement.
Oui.
Moi, j'avais lu là-dessus, fait que je m'étais dit, OK, je vais l'essayer. Puis, encore une fois, le pouvoir du mental, tu sais, tu peux le faire n'importe où, puis tu dis que tu es capable. Déjà, de te dire que tu es capable de faire un push-up, Yann, c'est d'y croire. Puis ça, il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour toi. Fait que, tu sais, de l'essayer, de le faire, puis de changer cette petite voix-là pour dire, ben j'ai pas réussi aujourd'hui, mais 1% demain, je vais réessayer, tu sais, comme...
Exact, oui. Ça, c'est important, parce que quand on échoue, ou quand on le fait pas, le lendemain, on est plus enclin à pas le faire encore.
À ne pas le faire encore.
Alors qu'il faut, justement, je pense que ça, c'est une bonne réaction à avoir. C'est, OK, aujourd'hui, j'ai tombé. Mais je suis encore sur le pont, puis je suis encore en train de le traverser. Fait que c'est correct que demain, je vais me reprendre.
Oui.
Mais c'est ça, je pense que c'est du tough love un peu, mais en même temps, c'est de ne pas s'apitoyer sur
c'est le mental,
sur son sort.
C'est ce que je retiens de la discussion, c'est le mental, que ça se passe dans la tête.
Tu vois, ça se passe dans la tête. Puis il faut que tu te visualises, puis moi aussi, mince. Ça, c'est quand même assez difficile, là.
Mais tu sais, au lieu de visualiser mince, visualise-toi en train de marcher puis d'avoir du plaisir, en train de faire un push-up puis d'être comme wow, le feeling que j'ai, tu sais, comme le sentiment, le ressentiment après de comment tu te sens d'avoir mangé ta salade. Puis, oh, une chose que j'ai aussi, se permettre la formule du 80-20. L'avez-vous entendu? La formule
non,
du 80-20?
Non, vas-y.
Donc, à tous les jours, d'essayer d'appliquer le 80-20. Donc, de te permettre de manger ta poutine. Ta poutine va faire partie du 20%. Ton 80%, ça va peut-être être le meilleur. Fait que, tu sais, quand on essaie quelque chose de se restreindre à juste manger de la salade, ben on n'arrivera pas. Tu sais, c'est comme c'est pas raisonnable. Fait que le 80-20, c'est dire, ben oui, j'ai le droit de faire comme quelque chose qui m'apporte du plaisir, mais le 80%, ben ça va m'apporter du plaisir aussi, sinon je ne le ferai pas, mais comme de changer ce mental-là, tu sais, parce que. Si on élimine tout, on n'y arrivera pas.
C'est clair.
Est-ce qu'en vieillissant, tu penses que c'est plus dur de changer des habitudes?
Oui.
Ben oui et non. Comme je peux pas vraiment répondre à ça pour tout le monde, mais pour moi, je pense qu'en vieillissant, on a plus de sagesse, mais on a moins de patience.
Peut-être.
En tout cas, pour moi, là, ma tolérance, ma patience est beaucoup plus mince. Je deviens fatiguée plus vite, mais j'ai plus de sagesse. Donc, c'est un équilibre là-dedans, puis j'en prends conscience. Puis, tu sais, je me permets d'échouer, puis de recommencer. Tu sais, dans l'armée, dans la vie militaire que j'ai, on dit toujours, tu sais, tombe 7 fois, mais relève-toi 8. Tu sais, fait que tu peux tomber, tu as le droit de tomber, mais il faut que tu te relèves.
Et c'est ce que tu dis aussi au niveau mental. Si tu échoues puis tu dis, je suis pas bon, je suis pas capable, c'est sûr que ça va pas t'aider. Si tu dis, j'ai échoué aujourd'hui, mais demain, je vais me reprendre. C'est complètement un autre état d'esprit, d'après moi.
Ben, ce que je disais à mes enfants, moi, c'est avant d'être capable de vraiment très, 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 très bien patiner, il va falloir que tu tombes 1000 fois. Fait qu'à chaque fois que tu tombes, il faut que tu sois content parce que c'est une fois de plus.
Ouais.
C'est comme, je pense, c'est Thomas Edison qui a inventé l'ampoule électrique. Ouais. Il s'est trompé 1000 fois avant de réussir. Puis on lui disait, mais t'es chou tout le temps, t'es pas bon. C'est même comme au baseball, les frappeurs, ils frappent des coups sûrs 3 fois sur 10, puis ça, c'est une excellente moyenne.
Alors, ils n'en frappent pas des bonnes 7 fois sur 10.
Ils se font retirer. Ouais. Alors, voilà. Alors, ben merci beaucoup, Julie. Ça a été vraiment super le fun de te parler. La force du mental, c'est pas un film des Boys, ça, ou quelque chose?
La dureté du mental.
La dureté du mental.
Mental toughness.
Merci. Et notre invitée, c'était Julie Bélanger-Bailey, qui est fondatrice du programme ZenFit et présidente de Rebellious Consultations RH. Merci infiniment, Julie.
Merci à vous deux.
Et bonne fin de journée. Merci, Yann Dallaire.
Merci, Jean Fontaine.
À la semaine prochaine.
Bye-bye.
Vous venez d'entendre une production de WebWest Balado. Découvrez une multitude de contenus audio francophones du Nord et de l'Ouest sur webwest.ca. On s'entend là-dessus.